I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Louis.
Nova.
Le seul discours qui est audible et qui est acceptable autour de la maternité, c'est de dire que tu es heureuse et extatique et que tout se passe bien. Alors que moi, ce pourquoi je plaide aujourd'hui et ce pourquoi je milite, c'est d'être capable d'entendre des mères, des discours qui soient ambivalents, des discours qui soient nuancés. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas heureuse quand on est mère, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de bonheur intense. Et je veux que toutes les femmes puissent pouvoir parler de leurs difficultés sans être taxées de mauvaise mère ou qu'il y aura une espèce de bug dans leur système maternel.
Je me souviens de la fois où je suis allée voir une de mes amies à l'hôpital, le lendemain de son accouchement. Elle était épuisée, elle pleurait, et elle m'a dit « Mais je ne sens même pas d'amour pour mon fils. » Et cette solitude dans laquelle elle se trouvait m'a glacée. On sait aujourd'hui que l'amour maternel n'est pas automatique, qu'il peut falloir des mois, des années pour être à l'aise dans son rôle de mère. On sait qu'à l'issue de la grossesse, on peut se sentir dépossédé de son corps, décontenancé face à ce nouveau rôle. On le sait, mais on en parle si peu. Ilana Weisman est doctorante en sociologie et co-créatrice de la campagne Mon Postpartum, lancée en 2020 sur les réseaux sociaux. Elle publie « Ceci est notre postpartum, défaire les mythes et les tabous pour s'émanciper ». Je suis Charlotte Pudlewski, bienvenue dans Fracas.
Quand je suis entrée en postpartum, donc à la sortie de la maternité, j'ai d'abord vécu 8 mois dans une espèce de tunnel où j'ai très très peu parlé. Enfin, les rares fois où j'ai essayé d'en parler, on m'a très vite remis sur les rails en me disant « Bon, tu sais, ok, c'est un peu difficile, mais t'as un petit garçon en bonne santé, c'est le principal. » Donc cette espèce de fausse bienveillance finalement qui est une injonction à se taire. Donc dès qu'on commence un peu à évoquer ou des souffrances ou des difficultés, on va soit nous dire « Bon, on passe tout par là, c'est comme ça. » Et puis on oublie, ça passe, etc. Donc on disqualifie les sentiments négatifs autour de cette période-là. Donc les rares fois où j'essaie d'en parler, que ce soit à ma mère ou à quelques copines, j'ai toujours été... ma parole a toujours été mise de côté et pas entendue. Donc vraiment, ça a été les 8 premiers mois où de toute façon, c'est une période qui est extrêmement complexe. On sort d'un accouchement qui peut être assez douloureux, assez éprouvant. Et on se retrouve à la maison avec un petit nourrisson. Donc moi, c'est mon premier enfant, donc c'est vrai que c'est un moment de d'ébranlement total sur le plan identitaire. Déjà, qui est-ce qu'on est? Qui est-ce qu'on est devenu? Construire un lien avec un nouveau-né, qui n'est pas la chose la plus naturelle du monde, finalement, malgré ce qu'on veut nous faire croire. Reconstruire ma relation à mon conjoint, me reconstruire moi-même, vraiment renouer avec cette nouvelle personne que j'étais, que j'arrivais pas vraiment à appréhender, et puis en même temps la personne que j'étais avant, que j'avais perdu de vue. Honnêtement, aujourd'hui mon fils a 3 ans et je n'ai pas encore tout à fait reconnecté ces deux identités-là. Ça prend énormément de temps. Et c'est vrai que pendant les 8 premiers mois, j'ai été, maintenant avec du recul, je vois que j'étais vraiment complètement sous l'eau. C'était un peu de la survie. C'était au jour le jour, il faut que je m'occupe de cet enfant. Mon conjoint qui est retourné travailler très rapidement après une petite semaine. Donc on se retrouve vraiment isolé, vraiment seul. On s'oublie tellement, on ne sait même plus quels sont nos besoins à nous. J'ai des souvenirs où je ne savais même plus quand j'avais faim, quand j'avais envie d'aller aux toilettes. C'était des choses où je réprimais complètement. Si je l'entendais pleurer et que j'étais... il fallait que je me fasse à manger, je n'avais pas mangé de la journée. J'allais d'abord le consoler. Je passais énormément de temps avec lui, évidemment. J'étais 24 heures sur 24 avec lui. Et je me suis complètement oubliée. Je me suis déboîté une épaule. Je ne suis pas allée voir le médecin parce que je le portais. C'était un enfant qui faisait 4,2 kg à la naissance. Un enfant qui a toujours été assez costaud. Et il ne s'endormait pas tout seul. Donc je le berçais constamment. Parfois, le mettre au lit, ça prenait... l'endormir, ça pouvait prendre 2 heures où je le portais, je le berçais. J'avais mal partout. Tout mon corps, qui est en plus un corps convalescent à la sortie d'un accouchement et d'une grossesse, je le méprisais totalement. En fait, je n'avais plus du tout conscience de mon propre corps. Et pendant 8 mois, j'ai tiré sur la corde. et jusqu'au moment où, à un moment donné, j'ai cessé de fonctionner totalement et je suis entrée en dépression et que ça n'allait pas du tout, en fait. Ça n'allait pas du tout et j'en parlais pas, ni à mon entourage, quasiment même pas à mon conjoint. En réalité, je cachais même ces émotions-là à mon conjoint parce que j'avais l'impression que si j'en parlais, j'allais révéler au monde que j'étais une mauvaise mère. J'allais révéler au monde que j'étais pas assez forte, que j'étais pas assez résiliente. Et on nous fait croire que ce sont des postures féminines naturelles, alors qu'en réalité, c'est ce qu'on attend de nous. Ce sont des injonctions, ce sont des constructions sociales. Mais sur le moment, je me disais, moi, j'ai jamais entendu parler de ces difficultés-là autour de moi, de mères que je connaissais. Donc ça veut dire qu'elles géraient et que moi, j'étais incapable de gérer.
Pendant cette période extrêmement douloureuse, vous vous le formuliez aussi clairement que ça, vous vous disiez, si j'en parle, on va me dire que je suis une mauvaise mère, y compris à votre mère, à vous, par exemple, à vos meilleurs amis.
Non, c'était pas aussi clair que ça. Là, j'en parle maintenant parce que j'ai un peu de recul et j'ai pu vraiment analyser ce qui s'était passé et vraiment l'intellectualiser quelque part. Mais pendant les premiers temps, non, c'était vraiment juste... Je savais en mon voir intérieur qu'on n'allait pas m'entendre. Je savais très bien et j'avais... tester. J'avais déjà essayé une ou deux fois, j'avais dit à ma mère, je me rappelle très précisément d'une discussion avec ma mère, où je lui disais, mon fils devait avoir, je pense, 5-6 mois, et je lui avais dit, maman, comment toi t'as vécu ton postpartum, est-ce que ça a été dur pour toi? Et elle m'a dit, non, moi tu sais, la maternité, je trouvais ça merveilleux, c'est que du bonheur, c'est super fluide, c'est naturel, voilà, on est faites pour ça, donc... Quand je suis venue vers elle, j'avais envie qu'elle valide mes émotions. J'avais envie qu'elle me dise « Ouais, ça a été dur pour moi aussi. » Et du coup, que je puisse après en parler avec elle et ouvrir cette petite boîte-là. Et en fait, elle m'a pas entendue. Elle m'a juste recraché cette mythologie autour de la maternité merveilleuse. Et en fait, l'idée que le seul discours qui est audible et qui est acceptable autour de la maternité, c'est de dire que tu es heureuse et extatique et que tout se passe bien. Alors que moi, ce pourquoi je plaide aujourd'hui et ce pourquoi je milite, c'est d'être capable d'entendre des mères, des discours qui soient ambivalents, des discours qui soient nuancés. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas heureuse quand on est mère, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de bonheur intense. Et je veux que toutes les femmes puissent pouvoir parler de leurs difficultés sans être taxées de mauvaise mère ou qu'il y aura une espèce de bug dans leur système maternel.
Et avec vos amis, est-ce que vous aviez des amis qui étaient déjà mères ou qui s'apprêtaient à l'être? Et avec elle, est-ce que vous avez pu avoir des conversations ou est-ce que c'était le même silence qui s'imposait?
C'est le même silence vraiment dans tous les cercles en réalité. J'ai essayé avec ma mère, j'ai essayé avec des copines de temps en temps de parler de ça, mais c'est vrai que, alors qu'elles étaient mères elles-mêmes, parfois même des femmes qui étaient en postpartum, enfin qui étaient des relativement nouvelles mères, de la même façon que je me suis auto-censurée, elles s'auto-censurent également. On est tellement attendu sur ce registre du bonheur maternel que c'est extrêmement compliqué d'émettre des sons de cloche différents. Et très très vite, en fait, on a l'impression de... Enfin, c'est une vraie transgression, en fait, de parler des difficultés de la maternité. Et alors, il y a l'idée qu'on ne va pas être entendu, donc on s'autocensure. Et il y a aussi, pour certaines, disons que l'accomplissement de genre ultime pour une femme, c'est de devenir mère. Donc à partir de là, il faut absolument... Pour grossir ce mythe-là, il faut parler que des belles choses, que des choses merveilleuses. Et ça, on l'a bien intégré en tant que femme. Et du coup, on devient quelque part des petites soldates du système qui vont faire perdurer ce mythe-là. Et très souvent, on me disait, même parfois c'était bienveillant. Et puis d'autres fois, c'était « Ilana, voilà, tu te plains et tout, mais tu devrais être heureuse. » Il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Par exemple, ça, on l'a dit. Parce qu'il y a des femmes qui ont peut-être des malheurs plus gros que les tiens, alors ça disqualifie, toi, ton sentiment d'ambivalence par rapport à la maternité. Ça disqualifie, toi, tes peines qui sont vues comme plus petites ou moins importantes. Si tu as un enfant, en gros, tu ne peux être que contentée parce que ce serait le graal absolu. Donc ça, c'est hyper difficile et j'ai reçu beaucoup de petites brimades comme ça de personnes qui me disaient « Franchement, tu devrais, t'as pas à te plaindre. Quoi. T'as un petit garçon qui est mignon, qui est en bonne santé. Sois juste heureuse de cette situation-là. »
Alors que vous expliquez en plus dans le livre que la proportion des femmes qui vivent des périodes de postpartum extrêmement difficiles est beaucoup plus large que ce qu'on croit.
Oui, alors on est en moyenne, on est à une femme sur cinq, ce qui est énorme. Et en plus de ça, le spectre des difficultés au niveau de la santé mentale des mères, il va au-delà de la dépression postpartum. Il y a un nuancier entier sur les difficultés maternelles. Je ne pense pas qu'il y ait une mère qui n'ait jamais vécu de difficultés, ou alors c'est une espèce de mensonge quelque part. Enfin, c'est l'idée qu'il faut se conformer à ces normes-là de contentement maternel. Mais c'est vrai qu'on est à une femme sur cinq, c'est énorme, surtout que c'est sûrement vraiment sous-diagnostiquée parce que, voilà, moi, par exemple, ma dépression, elle est arrivée à 8 mois. On aurait pu penser que j'étais en dehors du postpartum. Il y a l'idée aussi que le postpartum, ce soit un temps qui soit court, alors que ça peut vraiment s'étendre sur une année révolue, 2 ou 3 ans. Il y a des psychologues qui parlent de 3 ans. Il y a effectivement la dépression postpartum. Il y a aussi la dépression anténatale pendant la grossesse qui touche 18% des femmes. Donc, il y a vraiment tout un nuancier de difficultés maternelles qui n'est pas prise en compte, qui n'est pas regardée, alors que c'est extrêmement... Enfin, c'est un problème de santé publique, à mon sens.
Et puis, en plus, il y a la dépression postpartum, qui est un peu l'acmé de ce que peut être cette souffrance-là post-accouchement. Mais il y a aussi des choses plus ponctuelles, on va dire, plus quotidiennes, dont on n'a pas conscience non plus la plupart du temps. Et vous dites que quand vous avez lancé le hashtag et que ce mouvement s'est mis en place, il y a plein de femmes qui vous ont dit « Ah bon, mais on doit porter des couches parfois après l'accouchement. Ah bon, on a des saignements beaucoup plus importants que pendant les règles. » Il y a toutes ces choses-là dans le postpartum.
Bien sûr, là, on parlait un petit peu des conséquences psychologiques qui, pour moi, est un des points les plus importants. Mais il y a aussi toutes les conséquences physiques dont on n'a pas idée. Moi, j'ai eu des saignements pendant 6 semaines, parfois du sang qui coulait en m'asseyant sur les toilettes pendant 1 minute entière sans s'arrêter. C'est hyper impressionnant, ça fait peur. On peut se dire, attends, peut-être que là, j'ai un souci de santé. Et je dis souvent, de la même façon qu'on a une préparation à l'accouchement quand on est enceinte, il nous faut une préparation au postpartum. On parlait des saignements là, mais il y a notamment aussi les contractions post-accouchement dont j'avais aucune idée. On a des contractions qui vont en fait remettre l'utérus, faire reprendre l'utérus sa taille initiale qui peut durer pendant plusieurs semaines après un accouchement. Et j'ai eu tellement peur et ces contractions-là pour moi ont été tellement violentes et douloureuses que je suis partie aux urgences. Et puis on m'a regardée comme la dernière des idiotes. Bah oui, ben tu viens d'accoucher, il y a des contractions après un accouchement, c'est normal.
Mais ça, c'est quelque chose qui est conscient pour vous, de la part des femmes ou de la part des médecins ou de la part des mères ou de la part des amis, de dire « je vais pas trop t'en dire ». Et c'est quelque chose qu'on entend d'ailleurs parfois. Moi, j'ai des amis qui ou sont enceintes ou sont mères et qui disent « non, non, mais je vais pas te raconter parce que sinon après, ça va te dégoûter ».
Je pense que c'est plus ou moins conscient, c'est plutôt inconscient. Mais encore une fois, on répète, on va juste être un petit peu le relais de normes incorporées qui disent que effectivement, alors pour devenir mère, il faudrait faire croire que tout est facile, tout est simple. Et tout ce qui est un peu plus ou douloureux ou plus sale aussi, parce que ça va pas avec le glamour de la maternité. Voilà, t'es auréolée, t'es une espèce de déesse quand tu deviens mère. Tout ce qui concerne les fluides, l'incontinence urinaire, le sang. Enfin, il y a aussi un gros tabou sur les fluides féminins de toute façon. Mais il y a vraiment toute cette idée où tout ce qui est un peu sale, enfin, on peut parler des hémorroïdes aussi, hein, qui touchent 30% des femmes après un accouchement, enfin plein de conséquences physiques qui sont pas assez glamour pour aller dans l'espèce de package de la maternité. Donc oui, on le tait, enfin vraiment à l'échelle sociale, enfin c'est vraiment à l'échelle globale. Une femme qui veut devenir mère, même si elle connaît les difficultés qui peuvent en découler, elle aura un enfant. De la même façon qu'une femme qui ne veut pas devenir mère, tu peux lui dire tout ce que tu veux, elle voudra pas d'enfant, elle fera pas d'enfant. C'est vrai que de savoir les choses, c'est aussi une forme de pouvoir, une forme de contrôle sur son expérience, et ça, on nous le retire en tant que femme.
Et pour vous, ce que vous racontez dans le livre, c'est aussi que ce silence autour du postpartum, il est aussi lié au rapport entre féminité et souffrance qui a toujours été associé, et vous remontez jusqu'à la Bible, où en gros l'idée c'est que, c'est cette expression qu'on connaît très bien de « il faut souffrir pour être belle » et qui revient très souvent, et « il faut souffrir pour être une femme ». Et donc non seulement c'est normal de souffrir, mais en plus il faudrait le faire en silence.
D'abord il y a l'idée que, bon, si on remonte à Ève la pécheresse, que de toute façon cette souffrance-là, c'est un peu de notre faute, on se l'a infligé à nous-mêmes, puisque Ève à pécher, c'est à partir de là que le genre féminin est supposé souffrir en couche. Et au-delà de ça, en fait, ce qui est encore plus pervers, c'est qu'on va associer finalement la souffrance à l'identité de mère. Et il y a cette idée avec le modèle doloriste chrétien. Maintenant, on a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui est intrinsèquement lié entre la maternité et la souffrance, et que finalement, si on ne souffre pas, on ne va pas vraiment endosser ce rôle, enfin, symbolique de mère. Donc, en réalité, pourquoi se plaindre de quelque chose qui fait partie finalement de notre identité de mère ? Ce serait nier notre capacité à devenir mère et notre statut de mère que de se plaindre de la souffrance qui va avec.
Et puis il y a aussi le fait que vous dites la médecine est très androcentrée, toutes les statistiques le disent, que du coup les patientes femmes ont tendance à être moins bien prises en charge que les patients hommes. C'est presque un acquis en fait en tant que femme qu'on va souffrir, que c'est normal. Finalement, pourquoi en parler ?
Oui, il y a vraiment cette idée que la souffrance fait partie de la condition féminine et l'idée que le postpartum est un temps de convalescence, un temps de douleur physique, de gêne physique généralisée, ça va aussi, enfin, le fait que cette période-là soit disqualifiée, ça va aussi avec le fait que de toute façon on disqualifie la douleur des femmes de manière générale et qu'on la prend moins au sérieux. Quand une femme va dire qu'elle a mal, on va d'abord penser que c'est psychosomatique, on va d'abord penser qu'elle exagère sa douleur, que c'est sûrement quelque chose qui a plus attrait au psychologique qu'au physique. Il y a plein d'études qui montrent qu'on va plus facilement donner à des hommes des antidouleurs et aux femmes des anxiolytiques. Donc c'est vraiment ce rapport aussi sexiste finalement de la médecine à la douleur des femmes qui va jouer contre elle aussi en période de postpartum.
Et alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous vous êtes sentie libre ou capable, je ne sais pas, de prendre la parole sur le sujet? Vous êtes entrée en thérapie. Est-ce que c'est ça d'abord le premier déclencheur?
Le premier déclencheur, c'était la thérapie, parce que c'était un moment où j'ai pu prendre de la distance avec ce que je vivais. Ensuite, il y a eu, enfin vraiment, ça peut paraître anodin, mais c'était vraiment cette fameuse publicité, cette censure d'une publicité au moment des Oscars 2020, donc c'était en février de l'année dernière. Et vraiment par hasard, je tombais sur un article qui disait qu'une pub a été censurée aux Oscars pour contenu trop graphique. Je suis allée regarder et j'étais extrêmement choquée en réalité de voir que c'était une publicité super soft, où on ne voyait rien, enfin on voyait pas de sexe, on ne voyait pas de sang, on ne voyait absolument rien. C'était une pub super douce qui représentait juste le postpartum tel qu'il est, avec une femme qui effectivement avait l'air d'être en souffrance puisqu'elle grimaçait. Enfin, on voyait bien que son corps était convalescent, qu'elle était convalescente, mais rien de graphique, vraiment absolument rien du tout. Et j'étais, je me rappelle, émue aux larmes en fait de voir ce corps-là et de voir une femme, enfin une vraie femme en postpartum qui ressemblait à ce à quoi j'avais ressemblé après mon postpartum. Et c'est là où j'ai scrollé dans mon téléphone frénétiquement en me disant « Est-ce que j'ai encore des photos de cette période-là » Et je suis tombée sur deux photos, les deux seules photos de cette période-là que j'avais gardées. Je les ai postées sur mon compte Instagram. Et j'avais un petit compte à l'époque, mais j'ai eu énormément de retours très très vite et je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait quelque chose. Puis derrière ça, où j'ai eu l'idée avec trois amies militantes de lancer le hashtag sur Twitter, donc mon postpartum. Et puis là, ça a été vraiment, tout de suite, on a vu qu'il y avait, on s'attendait pas du tout, mais il y a eu un écho incroyable très très rapidement. Il y a eu plus de 10 000 tweets dans les premières 24 heures. Et ça fait un bien fou en fait de se dire, bah, en fait, si j'avais su ça au moment de mon propre postpartum, bah, je l'aurais vraiment mieux vécu.
Et qu'est-ce qui fait, vous pensez, qu'à cet instant-là, en 2020, les gens ont été prêts à se lancer dans cette campagne, à partager leurs histoires?
Alors, il y a un travail militant autour de ces questions-là qui est fait depuis quelques années. C'est assez récent en France. Il y a une association pionnière qui s'appelle Maman Blues, au début des années 2000, qui avait commencé à parler des difficultés maternelles, qui ont des antennes un peu partout en France. Donc, c'est vraiment les pionnières en France sur ces questions-là. Et ensuite, autour de 2017-2018, il y a commencé à avoir des comptes Instagram sur la maternité et sur le postpartum, comme Bliss Story, comme La Matrescence. Il y a aussi ce truc autour des questions autour de la maternité. Maternité qui auparavant était moins vue comme des questions très féministes parce qu'on se disait que une femme qui devient mère, en gros, elle a un peu lâché la bataille, elle s'est pliée aux normes du patriarcat, donc on les considère plus trop. Alors que maintenant, il y a vraiment une vraie frange de militantes mères. Il y a Fatima Wassak, il y a Fiona Schmidt, enfin, il y a plein de personnes qui parlent vraiment de ces questions-là, du non-désir d'enfant, du désir d'enfant, de la PMA, de la fausse couche, enfin tout ce qui peut entourer la maternité, mais qui est moins valorisé que cette espèce d'image d'Épinal qui est complètement fausse en fait de la maternité qu'on nous sert. Et donc il y a vraiment une vraie prise de ce terrain-là, de ce terrain de la maternité au niveau du féminisme dans sa globalité. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on était prêt à parler du postpartum. Ouais.
Et vous dites que la raison pour laquelle vous avez lancé ce hashtag et cette campagne, et la raison pour laquelle vous publiez le livre aujourd'hui, c'est aussi des raisons militantes, parce que vous voulez que cette prise de parole, elle se traduise par des actions politiques concrètes, et vous consacrez un chapitre dans le livre à toutes les actions qui sont menées dans d'autres pays que la France, où le postpartum est mieux pris en compte. À quoi est-ce que vous aspirez concrètement comme action politique aujourd'hui ?
C'est vrai que jusque-là, on parle de prise de parole, donc là, c'est plus à un niveau individuel, ce qui est extrêmement important. Et après, c'est pas non plus une injonction à parler si on n'a pas envie de parler. Il y a des femmes qui n'ont pas forcément envie de parler de ça, et je force personne à le faire. Et au-delà des actions individuelles, et il y a évidemment, de toute façon, des pistes politiques pour vraiment changer le système, parce qu'on parle vraiment d'un système qui abandonne les mères. Je parle du congé coparent, qui est pour moi une des pierres angulaires du changement. Quand je me suis retrouvée en postpartum, au bout de quelques jours, toute seule avec mon enfant, et mon mec qui repart travailler, alors oui, je me sens abandonnée. Et puis il y a la prise en charge des, au niveau des politiques de santé publique, clairement, c'est très souvent les femmes vont avoir un premier rendez-vous avec une sage-femme ou leur gynéco ou un généraliste que 6 semaines après l'accouchement, ce qui est absurde parce que les 6 premières semaines sont chaotiques. On a eu des témoignages après le hashtag qui étaient hallucinants de femmes qui avaient vraiment des besoins psychiatriques, qui avaient des envies de suicide ou des envies, des impulsions violentes envers leurs enfants et qui prenaient rendez-vous chez un psychiatre et qui n'avaient pas de rendez-vous avant 2 ou 3 mois parce qu'elles sont en province ou parce qu'il y a moins d'offres et qui se retrouvent donc toutes seules à la maison avec le mari au boulot à gérer des angoisses de mort, à gérer des envies de suicide. Enfin, c'est complètement aberrant. On a par exemple aux Pays-Bas un super exemple où les jeunes mères sortent de la maternité le jour de l'accouchement, il n'y a pas de séjour à maternité, et vont avoir une sage-femme qui va venir de façon systématique pour toutes les mères à domicile pendant 8 heures par jour, pendant autour de 10 jours dès le début, qui va être là pour absolument tout, pour les premiers gestes au bébé, qui va aider la mère à faire à manger, des choses super triviales, hein, faire un peu de ménage, faire un peu de rangement, lui dire « vas-y, là tu peux dormir, moi je m'occupe du bébé ». Il y a vraiment en France une non-prise en compte de cette période-là, comme si ça n'existait pas vraiment. Quoi. Une fois que le bébé est là, que le bébé est né, il y a quand même cette idée que de toute façon c'est naturel, que toutes les mères vont gérer. Il y a un suivi, mais il n'est pas assez rapproché, il n'est pas assez important.
Et est-ce que vous pensez que sur le plan de la parole, là-dessus, elle circule aujourd'hui ?
Non, pas encore. Enfin, c'est un début. Hein. On est dans des balbutiements quand même, comme dans beaucoup de questions féministes. On est vraiment dans un début. Encore une fois, ça fait que depuis quelques années qu'on commence à parler de ces questions-là. Et j'ai l'impression quand même que pour le moment, on reste quand même assez dans les cercles féministes, c'est pas encore mainstream, ça s'est pas encore vraiment propagé ces idées-là. J'espère que le livre pourra jouer un rôle dans cette diffusion de l'idée que le postpartum est un temps extrêmement important. J'ai remarqué par exemple que dans les différentes couvertures médiatiques qu'on a eues, si c'est des médias féministes, on va avoir beaucoup de soutien, beaucoup de commentaires positifs. Et dans des médias plus mainstream, sur Le Parisien, sur La Vidéo Brute notamment, où enfin c'est des insultes, c'est des mais regardez-moi cette génération de chochottes et de pleureuses, comme si en fait parce que nos mères et nos grand-mères ne se plaignaient pas, ça veut dire qu'elles souffraient pas. Non, c'est juste qu'elles taisaient tout. Ma propre grand-mère à qui je dédie le livre a eu un bébé mort-né. Elle a jamais parlé de ça jusqu'au jour où elle était proche de la mort. Elle a parlé de ça à ma tante. Moi, je suis ravie de voir que la parole peut se libérer aujourd'hui et j'espère que ça va aller, que ça va être de plus en plus évident que la maternité c'est aussi douloureux et c'est aussi compliqué et qu'on va accepter d'entendre ce discours-là. Oui.
Cet épisode de Fracas a été monté par Julia Courtois, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Media et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcasts, à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts dont Travail en cours ou Passage. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au club louismedia.com/club. À très vite.
Bonjour, je suis Marine Revol et je présente Fête des Gosses, le podcast de Louis Media qui vous aide à traverser la jungle de la parentalité. Dans Fête des Gosses, je démêle notamment le vrai du faux de l'éducation positive ou de la chasse aux écrans. Et je me demande par exemple, comment ne pas refiler nos casseroles et nos traumas à nos enfants. Vous y entendrez des sociologues, des psys, des philosophes et des parents. Et la nouveauté cette saison, c'est que je donnerai de plus en plus la parole aux enfants. Fête des Gosses est dispo partout. Bonne écoute.